santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Le docteur Vincenzo Castronovo, le chercheur, le clinicien, le pédagogue Vincenzo Castronovo dans la Casa de Papel, ce serait le professeur. Comment allez-vous, Vincenzo ?
Je vais très bien, Fabrice, et vous, depuis la dernière fois. Ça vous va. Êtes remis de vos émotions.
Oh là là, écoutez, on m'a demandé si vous pouviez refaire la biographie de début pour expliquer.
Ah non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais rajouter quelque chose sur ma biographie. En fait, étant donné que j'avais opté pour une carrière préclinique et pas clinique, puisque je n'ai pas été prof de gynéco, on m'a proposé de devenir le prof de biologie, d'enseigner la biologie, ce qui était tout à fait en cohérence avec ensuite ma passion pour la nutrition, puisque la nutrition, c'est d'appliquer les concepts fondamentaux de biologie et de biochimie à la santé. Et c'est ça qu'on va essayer de faire de manière, je dirais, vulgarisée pour que chaque auditeur, et peut-être vous-même, Fabrice, comprenez des choses simples à faire, mais qui ont du sens par rapport à votre santé. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc j'ai formé plusieurs dizaines de milliers de médecins belges et français, de pharmaciens, de dentistes et de scientifiques en santé biomédicale et expérimentale.
Et maintenant, des auditeurs de Nutri Radio, la santé selon Castronovo, vous êtes revenu. Vous avez été tellement partageur la semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de revenir sur les 4 P de la médecine. La santé selon Castronovo, pour vous, ça s'appuie sur ces 4 piliers, les 4 P. Et on s'est dit, donc, on va y revenir cette semaine, bien évidemment, parce qu'on a le temps. Vous savez, chers auditeurs, on prend son temps. Si on ne fait pas tout dans cette émission, on le fera dans l'émission suivante. C'est à la bonne franquette. Et il faut aller jusqu'au bout des choses, voyez-vous.
Fabrice. Mais Fabrice, vous avez noté que je peux être un peu logoréique, c'est-à-dire avoir une espèce de diarrhée verbale, parce que je suis tellement passionné par ce que je raconte, je suis tellement en envie de transférer beaucoup de choses, parfois trop d'ailleurs, parce que parfois ça se bouscule, que s'il vous plaît, si vous voyez que je deviens diarrhéique dans mon expression, et ben, faites un coup d'imodium, hein, ça va.
D'accord, très bien. On va mettre un bruitage de chasse d'eau. À chaque fois, j'appuierai sur le bouton de la chasse d'eau.
Chiche.
On va y réfléchir. On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. En tous les cas, revenez déjà sur ce premier pilier
voilà,
de la
les
santé.
Les 4 P. Donc voilà, le premier P, c'est la prévention. La prévention, en fait, c'est d'intervenir avant que les symptômes n'apparaissent. Une fois que les symptômes apparaissent, c'est souvent trop tard. Okay. Quand vous avez de la fumée qui sort de votre maison, souvent c'est trop tard, il y a le feu. Il eût mieux fallu avoir un détecteur de fumée où la première fumée puisse déclencher une alarme. Donc l'idée, la prévention, et je voulais vous dire également que un des drames de la société est malheureusement occidental, mais aujourd'hui la globalisation mondiale, c'est cette émergence de maladies chroniques. Alors, ce que je voulais vous dire, Fabrice et chers auditeurs, que le qualificatif chronique, c'est vraiment une espèce de sparadrap, de pansement, un petit peu pas très ragoûtant, qui veut cacher l'incapacité de la médecine allopathique de pouvoir soigner le patient. Ok ? Alors voilà, le patient vient chez le médecin, il dit voilà, chère Madame de la tronche chambée est un patient lambda qui vient souvent à mes consultations et que vous entendrez parler souvent, c'est toute une famille, il y a Madame, il y a Monsieur, il y a l'enfant de la tronche chambée. Donc Madame de la tronche chambée, voilà, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne est pour moi, la mauvaise est pour vous. Ah, c'est quoi docteur? Ben écoutez, la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous avez une maladie chronique, c'est-à-dire que vous êtes malade pour tout temps jusqu'au bout de la vie. Et la bonne, c'est qu'on va se voir souvent et vous allez faire un fonds de commerce. Et donc, c'est pas vrai. L'idée, c'est que les maladies sont l'aboutissement d'un processus. Rappelez, on a parlé la fois passée de ce mur qui pourrissait tout le temps jusqu'au moment où finalement même les briques allaient être attaquées si j'avais pas eu ce génial artisan qui m'avait dit « Est-ce que tu as été voir ton toit ?» Voilà. Et donc, souvent, mes patients, j'ai dit « Écoutez, moi, quelle que soit votre plainte, je vais commencer par les voir tous les éléments qui sont déterminants pour que vous fonctionnez correctement. Et puis, on va aller réparer tout ce qui ne va pas et on verra comment ça va aller. Parfois, ça marche pas, mais dans 95% des cas, on a des résultats remarquables. Donc, la prévention, maladies chroniques ont un coût incroyable. Et Fabrice, les maladies chroniques sont responsables de 75% des morts prématurées dans globalement, mondialement. Donc c'est quelque chose de comment dire, d'inquiétant, de très inquiétant, parce que ces maladies chroniques, elles ne font pas que tuer, elles vous empiètent de votre joie de vivre, de votre force physique et mentale, et au niveau sociétal et économique, ce sont des gens qui vont être à charge de la société, la sécurité sociale, donc c'est pas un bon plan.
Et en plus, Vincenzo, pardon, pardonnez-moi, mais vous dites que donc ce terme chronique, c'est une espèce de fourre-tout où l'on met les maladies pour lesquels on n'a pas détecté de traitement efficace, et le patient, il se voit donc résigné, et cette résignation affecte son mental et affecte encore plus sa santé.
Mais également les traitements, parce que tout au cours de cette année, vous allez voir que cette approche de la prévention, elle est basée sur des préceptes remarquables qui ont été déjà formulés il y a 2400 ans, par celui qu'on considère comme le père de la médecine occidentale, à savoir Hippocrate. Hippocrate, d'abord, il avait perçu qu'un médecin, il devait faire du bien au patient. C'était son objectif principal, augmenter son potentiel santé physique et mentale pour qu'il soit. Et il a dit « prima non nocere ». C'est le premier précepte quand on prête serment d'Hippocrate, quand on a reçu son diplôme, on doit dire « prima non nocere ». Et je vous assure que le pauvre Hippocrate, ses os dans les castagnettes, parce que c'est pas aujourd'hui ce qu'on fait. Hein. On eut beaucoup. Il y a beaucoup d'effets secondaires des traitements, parce que pour les raisons qu'on va expliquer plus tard. Donc, prima non nocere. Le deuxième, il a dit, parmi d'autres qui vont inspirer cette médecine nutritionnelle, que ton alimentation soit ta première médecine. Il a ajouté, l'alimentation sert non seulement à maintenir les individus en bonne santé, c'est-à-dire vertu préventive, mais également à leur rendre la santé, c'est-à-dire vertu curative. Alors généralement, la population, peut-être vos auditeurs, pensent que on doit manger pour vivre, et que donc manger ne peut pas nous faire de tort, puisque c'est une situation qui nous est imposée. Nous sommes des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire que contrairement aux plantes qui sont autotrophes, nous ne sommes pas capables de produire la matière vivante, c'est-à-dire les molécules de la vie, les perles utilisées pour faire les colliers que sont nos molécules de vie, les protéines, les carbohydrates, les lipides, les acides nucléiques. Alors que les plantes savent le faire à partir d'eau, de CO2 et de quelques minéraux et d'un peu d'azote, nous, on est obligé de les manger. Sinon, on meurt. Excusez-moi. Donc, dans ce contexte-là, les patients ne font pas de lien entre manger et être malade. Or, il y a un lien incroyable. Est-ce que vous savez, mon ami Fabrice, que 40% des cancers sont directement, plus de 40% sont directement liés à l'alimentation? Alors que c'est moins que les cancers liés au tabac. Okay. Alors pourquoi est-ce que ces maladies chroniques, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un élan pour essayer de comprendre? Eh bien parce que maladie chronique, ça veut dire prescription de médicaments tout le temps, et donc il y a un business, la maladie est un business. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, c'est le ministère de la maladie, le ministère de la Santé, c'est le ministère de la maladie. Savez-vous que la plupart des pays, la France, consacre 97% du budget santé à la maladie, pour ça qu'il devrait changer de nom, seulement 3% à la prévention, et que 25% de ce budget sont consacrés au 1% le plus malade, et quasi la moitié de ce budget consacré au 5% le plus malade. Ça n'est pas beaucoup d'opportunités pour la maladie. Notre ministre de la Santé belge, il y a quelques années, avait pourtant déclaré sur un journal national: un euro investi dans la prévention épargne 4 euros dans le traitement. Et voilà, donc il y a des conséquences économiques. La maladie, mon cher Fabrice, est un business.
Et en fait, on peut dire qu'il y a deux discours finalement, un discours officiel et ce qui se passe concrètement dans les chiffres que vous venez de rappeler, qui fait plutôt peur, alors qu'on pourrait se dire qu'en appliquant peut-être et en dédiant un peu plus de budget pour la recherche, pour la prévention.
Mais il y a des choses qui sont connues, qui sont évidentes. Par exemple, vous devez savoir qu'une équipe de Stanford d'épidémiologistes a calculé que la consommation de sucre rapide, c'est-à-dire le saccharose, le sucre qu'on ajoute partout, est responsable dans le monde d'un mort par seconde. Vous voyez, après cette émission qui dure, je pense, combien, 15 minutes?
Cette émission dure une heure et le podcast un peu moins, 20 minutes.
20 minutes, ben, vous comptez, hein, 60 fois 20, vous avez le nombre de morts que nous allons pouvoir regretter après cette émission, ben, c'est par seconde. Et comment dire, l'idée, c'est que l'industrie agroalimentaire, notamment l'industrie du sucre, le sait. Vous avez certaines firmes que je ne vais pas citer,
Oh là, je
puisque.
pense qu'on va se
Non,
faire
je ne vais
des
pas
ennemis.
citer ces films parce que peut-être qu'un jour ce sera votre sponsor, donc
Non,
on ne
vous
va pas.
savez, écoutez, déjà, un, on fait de l'éthique avant tout. D'ailleurs, si vous écoutez les partenaires de Nutri Radio, je pense qu'ils le sont tous voilà, et
Voilà.
ça fait aussi partie de notre parti pris
Voilà.
pour le coup.
Donc, par exemple, Coca-Cola sponsorise la recherche contre le diabète, pour vous dire, voilà, un truc
Très
comme
bien,
ça.
on va encore se faire des amis avec vous. Donc, je vous remercie. On va marquer une première pause et vous avez rappelé cette phrase d'Hippocrate, primum non nescere, qui signifie d'abord ne pas nuire pour tous ceux qui n'ont pas, voilà, n'ont pas fait latin en bon sixième, notamment. On marque une pause, Vincenzo, on se retrouve dans un instant.
Allez, à tout à l'heure,
Allez,
oui.
à tout de suite, ce sont les frères du reste avec nous.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Vincenzo Castronovo, pour votre plus grand plaisir sur Nutri Radio, on apprend des choses. Il y a des choses que l'on sait déjà, mais qui, quand on les entend en rappel, ça pique un peu, notamment les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure, hein, sur les budgets dédiés à la maladie, à la santé. Et comme vous le dites, c'est pas le ministère de la Santé, plutôt le ministère de la Maladie. Mais bon, une fois que ceci est dit, on va revenir sur nos piliers de la santé. Le premier pilier étant la prévention.
La prévention, voilà. Et donc, quand vous avez fait la pause, j'étais en train d'expliquer que, notamment, donc, l'industrie agroalimentaire est complice de cette situation, puisque vous allez savoir qu'on a bien identifié que la surconsommation, la consommation excessive de sucre tue une personne par seconde dans le monde, et vous allez savoir qu'en Europe, l'industrie du sucre dépense 1 milliard d'euros pour empêcher que l'Europe décide, pour faire du lobbying, pour empêcher que l'Europe mette sur les étiquettes alimentaires qu'elle contient du sucre rapide. Donc, vous voyez, il y a une espèce, comme vous dites, d'hypocrisie, et on estime que les consommateurs doivent être au courant, ils doivent choisir eux-mêmes, alors qu'on les matraque de publicité, et ça commence dès la plus tendre enfance, on conditionne les gens. Et je vous raconte pas aujourd'hui l'impact négatif des réseaux sociaux qui véritablement infectent nos jeunes par rapport à conditionner leur comportement vers ces aliments qui sont extrêmement rentables pour l'industrie agroalimentaire. Et je vous expliquais lors d'une émission pourquoi le sucre vous rend addict et comme pourquoi le sucre est une drogue plus puissante que la cocaïne. Ça a été démontré et publié. C'est même un Français qui a été un des premiers à le mettre en évidence. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre émission, si l'émission perdure, parce que peut-être que vos auditeurs vont dire on ne veut plus entendre cet abruti. Donc voilà, on verra bien. Et donc voilà. Alors la prévention devient une urgence au niveau si on veut maintenir notre modèle sociétal, faire la prévention, c'est-à-dire revenir à un comportement notamment alimentaire, mais également d'activités physiques qui sont liées, hein, puisque nos ancêtres marchaient jusqu'à 15 km par jour et mangeaient beaucoup moins que nous, beaucoup moins de calories que nous et dépensaient plus. Eh bien, si on veut revenir à cet état-là, il faut vraiment revisiter notre concept de vie et notamment aussi et arrêter d'intoxiquer les personnes par cette nécessité de rendre les cultures le plus rentables possible en essayant de les réserver uniquement à l'homme et en tuant toute vie qui pourrait envisager cette nourriture pour eux. Donc nous ne partageons pas avec nos collègues de la planète Terre les aliments et pour ça nous les tuons avec des pesticides sans imaginer que comme nous sommes des êtres vivants aussi, ces pesticides, ces molécules chimiques vont nous nuire également. Et ça on le sait, ça a été prouvé également et on en reparlera.
Ça
Et vous le
semble...
voyez.
Ça semble tellement évident pourtant. Mais bon, Vincenzo, cette émission, on le rappelle, est sponsorisée par Béguincé.
Voilà.
Bon, sur la prévention, bon, voilà, on détend un petit peu l'atmosphère parce que ce que vous dites, quand on y réfléchit bien, c'est
ça
tellement
fait peur, oui,
dramatique
bien sûr.
Que ça donne pas du tout le sourire. Donc, on va un peu prendre une petite bulle de respiration pour revenir peut-être sur le deuxième pilier de cette médecine.
Deuxième pilier, certainement, avec plaisir.
La personnalisation.
Voilà.
Vincenzo. Ah oui, parce que vous attendiez la pub. Non, on m'a.
Bah oui, je me dis, tiens, il va faire une pub. Non, j'ai non, déjà non. parlé si longtemps. Ah, pas de pub, voilà. Mais la pub, c'est qu'on continue, voilà.
Voilà, la pub, c'est et la donc, petite respiration.
Vous êtes un petit malin, Fabrice. Hein, c'était pour m'avoir. Hein, voilà.
C'était pour voilà. changer okay, d'ambiance.
Donc, on a fini la prévention. Donc, il est absolument indispensable d'investir dans la prévention et d'intervenir avant. Et vous m'avez, en fait, c'est un peu dommage parce que vous m'avez coupé d'un truc comme ça. Vous n'avez pas fini, moi, la prévention. Hein. Il est absolument indispensable d'investir dans la prévention. Sinon, notre modèle sociétal, il va dans le mur. Il commence déjà à aller dans le mur, mais là, on va passer des limites où peut-être on sera à un point de non-retour. Mais voilà.
Le deuxième pays,
non, je vous en veux pas, je vous en veux
non,
pas.
Non, mais Vincenzo,
ne prenez pas sur mon temps de parole, Fabrice.
Vincenzo, j'espère qu'on contre... non, tout ça n'est pas dé... tout sera ne sera déduit de votre temps de parole, je vous le promets. Mais j'espère que nous, sur Nutri Radio, on se place vraiment dans ce premier pilier qui est la prévention. C'est important.
Si je vous félicite. Ben écoutez, Fabrice, c'est bien pour ça que j'ai accepté de participer à cette radio. C'est parce que j'ai vu que finalement, nous partageons les mêmes valeurs. Alors, et moi je ne travaille qu'avec les gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont le même enthousiasme de faire en sorte que les mentalités changent. Et étant donné que finalement les conséquences au niveau de la santé viennent de personnes qui ont beaucoup de moyens et qui finalement se soucient plus de leur de la santé de leur compte en banque que celle des personnes, eh bien ce sont des gens comme vous qui vont en éduquant la population avoir un système qui allait de la base vers le sommet, parce qu'à un moment donné on va devoir changer ceux qui nous dirigent en leur donnant les vraies valeurs qui doivent être implémentées lorsqu'ils doivent prendre des décisions. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que je suis avec vous et qu'on parle de prévention des maladies et plutôt d'optimisation de la santé. Parce que je voulais vous dire aussi, Fabrice, bon, tant pis, que la médecine contemporaine dite allopathique ne vous prend en charge que lorsque vous êtes malade. Et cette maladie, finalement, va être définie par une série de critères. Vous avez trop de glucose, trop de sucre, hein, c'est le glucose dans le sang. Vous avez les hormones thyroïdiennes qui sont trop basses, etc. Et on va justement, et ça va être un très bon pont pour le deuxième P, on va utiliser des valeurs déterminées sur une masse. Okay, une masse de population qu'on considère comme homogène et qui est tout sauf homogène. Et donc, on va attendre que vous soyez dans le rouge, finalement, pour dire, voilà, vous avez un diabète, vous avez une hypothyroïdie, et là, on va vous donner un traitement, sans un traitement symptomatique. Okay, vous allez, si vous avez un ulcère, on va vous donner de l'oméprazole, etc. Par contre, il n'y a pas de chemin. Mais avant d'arriver à cette zone rouge, avant d'avoir un ulcère, il y a eu toute une étape qui est un no man's land. Donc on peut définir les trois états de la santé optimale, c'est-à-dire qui est pour un chacun de pouvoir jouir de manière optimale de ses capacités physiques, mentales et émotionnelles, puis il y a la maladie, là on n'est pas bien, et puis il y a no man's land où le patient vient chez le médecin et dit « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai ». Le médecin fait son bilan, il dit « Écoutez, pour moi tout va bien, moi je ne sais pas ce que vous avez non plus », donc finalement on est avec deux personnes qui ne savent pas ce qui se passe. Et finalement, on va dire, ben voilà, écoutez, c'est dans votre tête, prenez des congés, etc. Et puis, finalement, on attend la maladie, parce que le patient est sur un chemin, une pente qui va l'amener alors à la frontière entre la maladie et il pourra être pris en charge et par son médecin avec des traitements et pris en charge également par la sécurité sociale. Mais moi, je voulais que les auditeurs comprennent bien que la santé, c'est pas l'état de non-maladie. La santé, je l'ai défini, c'est la capacité de pouvoir jouir de manière optimale de tout son potentiel santé et de son potentiel physique, mental et émotionnel. Et donc, ce no man's land où on n'est pas malade, mais on n'est plus en bonne santé, ben c'est une zone d'ombre où vont agir pas mal d'intervenants, de thérapeutes qui vont vous promettre des traitements miracles, etc. Et comme vous n'êtes pas bien, que vous errez dans ce no man's land et que vous devez attendre la maladie malheureusement, eh bien, il va y avoir une série d'abus qui peuvent éventuellement dénaturer, donner une mauvaise réputation à des approches qui sont pourtant fondées, comme notamment la médecine nutritionnelle et fonctionnelle dont je vais vous parler. Et avec ce deuxième P, mon ami Fabrice, vous êtes toujours là, j'imagine, la personnalisation. On a déjà compris que la population humaine est extrêmement hétérogène. Hein, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, on est tous différents, on a tous des tailles différentes, on a tous des couleurs de cheveux différentes, on a tous tout est différent. Alors, mais tout est différent à énormément de points de vue. Il y a trois grands domaines où nous sommes différents, et notamment le polymorphisme génétique. C'est quoi? Alors, vous savez dire c'est quoi, Fabrice, le polymorphisme génétique?
Qu'est-ce que c'est que le polymorphisme génétique, Vincenzo?
Donc, vous, Fabrice, on avait pourtant dit que quand il y avait un mot que vous ne compreniez pas, hein, probablement que les auditeurs non plus, parce qu'on parle à tout le monde, et que vous aviez l'obligation de m'interrompre. Et donc, finalement, je m'anime moi-même. Quoi, hein, non, c'est incroyable. C'est incroyable.
Vincenzo, vous avez dit, le polymorphisme génétique, c'est quoi? Donc, moi, j'attendais, vous avez enchaîné.
Je me dis, c'est quoi? Donc, le polymorphisme génétique.
Eh bien, on le saura la semaine prochaine. Merci beaucoup, Vincenzo.
Ok. Allez, Fabrice, un peu plus attentif, s'il vous plaît. Au revoir. On parle des auditeurs.
Ah, je plaisante. On va pas laisser comme ça les auditeurs comme ça dans ce suspense incroyable.
Oui, donc polymorphisme génétique. Donc il y a poly plusieurs, génétique gène. Alors est-ce que vous savez c'est quoi un gène? Un gène, c'est très compliqué, mais résumé, c'est la recette pour faire une protéine. Ce sont ces gènes qui vont être recopiés et transmis aux générations futures. Ok. Donc, quand on parle d'héritage génétique, ce sont les recettes qu'on a héritées de notre papa et notre maman. Alors, vous allez savoir que pour faire un humain, il faut environ 22 000 protéines. Donc, il y a 22 000 recettes qui vont devoir être exécutées. Et ces recettes, eh bien, elles nous viennent de notre papa et notre maman. Donc, comme vous savez, ce n'est pas une insulte, Fabrice, vous êtes un zygote. Hein, c'est-à-dire qu'un zygote, c'est quelqu'un qui a deux jeux de chromosomes de l'espèce. Le nombre de chromosomes est défini par espèce. Par exemple, il y a des fleurs qui en ont 153. Nous avons notre nombre de chromosomes liés à l'espèce humaine, c'est 23 chromosomes. Hein. Ben, les chromosomes, c'est quoi? Ce sont des livres. Des livres dans lesquels sont inscrites les recettes. Okay. Donc, il y a, par exemple, il y a le livre pour faire l'estomac, il y a le livre pour faire le système immunitaire, il y a le livre des entrées, des potages, des desserts, des fromages, enfin voilà. Et donc, dans chaque livre, il y a la recette précise, comment faire. Cette recette, est, en fait, vous ne pouvez, vous qui êtes un zygote, vous ne pouvez en avoir que deux versions. Là, vous avez la bibliothèque de votre papa et celui de votre maman. Ok. Donc, si votre papa et votre maman étaient jumeaux, cousins, eh bien, il y aurait beaucoup de chances que vous ayez chaque fois la même recette pour le même plat. Okay? Quand vous avez deux fois la même recette pour le même plat, vous dites homozygote pour la mousse au chocolat, par exemple. Si maintenant, vous avez épousé quelqu'un de très éloigné, par exemple, je sais pas, vous avez épousé une Brésilienne alors que vous êtes français, hein, eh bien, il est probable que vous aurez une recette de mousse au chocolat brésilienne et une française. Vous serez hétérozygote pour la mousse au chocolat. Et donc, normalement, vous avez deux choix, et éventuellement, parfois, vous avez peut-être mélangé les deux. Mais si ces deux recettes sont très bonnes, on mangera souvent la mousse au chocolat.
D'accord, mais c'est bien. Ceci, alors. C'est mieux d'être hétérozygote.
Oui, ça dépend. Parce que c'est une très bonne intervention. C'est bien. Ah, bah voilà, vous commencez à animer de manière intéressante. Waouh!
Allez, c'est
là, il a fallu deux émissions, mais bon, voilà. Vous serez parfait à la fin. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites parce que, vous voyez, si vous avez deux recettes, vous êtes hétérozygote, et une est très bonne et l'autre, c'est la catastrophe. OK? Si à un moment donné, il arrive un malheur à la bonne, vous ne pourrez plus faire de la mousse au chocolat parce que ce sera dégueulasse. Donc voilà. Donc, ce n'est pas bien d'être hétérozygote. C'est bien d'avoir une variété, mais ce n'est pas bien d'être hétérozygote si une des versions est pas bonne du tout. Vous avez, par exemple, le gène qui donne le cancer du sein, BRCA1, eh bien souvent on est hétérozygote. C'est un gène qui, lorsqu'il est muté, augmente le risque de cancer du sein de manière très importante. Eh bien, généralement, vous avez un qui est muté, l'autre pas. Et malheureusement, si le deuxième mute à un moment donné, eh bien, catastrophe, vous avez un cancer qui risque très fort de se développer. Donc, vous voyez, un exemple pratico-pratique qui vous montre que ce n'est pas bien, mieux vaut d'avoir à chaque fois les deux meilleures versions. Hein? Vous êtes d'accord?
Ouais, on est d'accord.
Vous
Mais
avez
par contre,
compris?
mais si monozygote il est pas bon, là, c'est vaut mieux être hétérozygote.
Ah, absolument, oui, évidemment. Si vous avez un très mauvais et un très bon, mais vous allez avoir un très bon, évidemment. Voilà,
Ouais, oui, non, mais
ok.
bon, voilà, je me suis réveillé à la fin, mais vous inquiétez pas, c'est l'envol. C'est
C'est
l'envol.
l'envol, hein, c'est un peu dur. Hein. Alors, on
Vincenzo,
continue.
vous voulez
Ouais.
continuer ou on continue la semaine prochaine?
Ah ben la semaine prochaine, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur le polymorphisme et la personnalisation.
Alors, on reviendra dans le détail, dans la personnalisation. Maintenant que nous sommes tous des zigotos et qu'on se dit, ben oui, finalement, c'était pas à prendre de manière péjorative. C'était juste un
Non, non.
constat. Hein?
Absolument.
Et bien donc, on est tous rassurés. On vous a jamais
Ben,
appelé zigoto, vous?
je suis un zigoto, donc à tous les zigotos qui écoutent, je vous souhaite une bonne semaine ou
Et on
un
se...
bon mois, puisque c'est tous les mois ou toutes les
Oh
semaines
là là là
que.
là, c'est le docteur Vincenzo Castronovo, hein. Là, c'est votre côté hétérozygote qui parle, parce que c'est chaque...
La moins bonne version.
Voilà, c'est
La
la moins
moins
bonne
bonne.
version, c'est chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine,
Ah bah ben, la
Vincenzo.
semaine prochaine, hein, ok, allez, à très bientôt les zigotes. Salut!
Allez, cette émission, vous la retrouvez à partir de 18h en podcast, évidemment, en rediffusion, et nous, on se retrouve donc semaine prochaine pour La Santé selon Castronovo, sur Nutri Radio. Retour de la musique, tout de suite.
La santé selon Castronovo, Vincenzo Castronovo, sur Nutri Radio.